33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la Libre Antenne, la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Et je vous le disais en première partie, vous êtes très très nombreux à souhaiter réagir à la situation au Sénégal après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, arrestation qui a provoqué encore hier des violences à Dakar, dans la capitale, mais aussi dans le sud du pays, en Casamance, où au moins un manifestant d'une vingtaine d'années est décédé à Bignona. Mokhtar, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Dakar, vous êtes au Sénégal. Vous comprenez la colère de tous ceux qui sont dans la rue depuis mercredi, c'est ce que vous disiez au Standard.
Effectivement, nous comprenons la colère parce que actuellement le régime est en train de faire une vis repetita de ce qui s'est passé dans les années passées. Vous pouvez constater avec nous que Macky Sall, à chaque fois qu'il veut éliminer un candidat au présidentiel, il a ses méthodes propres et actuellement nous sommes habitués à ces méthodes. Khalifa Sall, il avait fait la même chose. Karim Wade, il avait fait la même chose. Et nous tous, nous voyons le chemin où il veut mener actuellement Ousmane Sonko. Et c'est un complot ourdi par eux et que nous, que le peuple sénégalais n'acceptera pas. Le Sénégal est déjà un pays très reculé en termes de développement. Les conditions sanitaires ne répondent pas. La corruption, elle est là. Oui. La pauvreté, les gens sont fatigués.
Mokhtar.
Et en plus de tout cela, ils veulent encore nous imposer la restriction des libertés individuelles et collectives même.
Oui. Donc, vous ne l'accepterez pas, Mokhtar. Donc, pour vous, cette plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar n'est qu'un complot.
Mais effectivement, si ce n'était qu'un complot, pourquoi ils ne veulent pas le laisser aller répondre au juge? Ousmane Sonko avait déjà l'idée de ce qu'il veut faire et il le répétait tout le temps. Nous l'avons entendu. Et s'il était allé répondre le premier jour, il allait l'emprisonner le même jour. Et il l'a compris, il a déjoué leur stratégie. Il est allé répondre. Qu'il le laisse aller répondre au juge d'instruction. Mais ils ont bloqué son cortège de 9h à 13h. Mmh. Comme quoi? Parce qu'ils veulent qu'il emprunte un chemin, lui il veut l'autre. Mais il était libre en ce moment de prendre n'importe quel chemin qu'il veut.
Oui. En même temps, il savait bien qu'en mobilisant ses partisans par centaines, forcément à un moment donné, la situation allait se compliquer dans les rues de Dakar, sur le trajet vers le palais de justice.
Tout ce qui a compliqué la situation, c'est ceux qui ont bloqué son cortège. Macky Sall, Khalifa Sall, Karim Wade, tous ont été accompagnés par des centaines et des milliers de militants, mais ils sont allés répondre et retourner. Mais le problème en est qu'en ce moment même, il y avait un recours qui a été introduit au niveau du Conseil constitutionnel qui a été suspensif, qui a suspendu l'immunité, la levée de l'immunité parlementaire. Et il craignait qu'arrivé là-bas, il a retourné chez lui. Et maintenant, il fallait maintenant lui coller impérativement un autre délit, bidon.
Donc cette garde à vue, cette arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, pour vous, c'est clairement, comme le disent d'ailleurs ses avocats, un subterfuge pour l'isoler de son public, le garder à vue. Vous restez en ligne, Mokhtar. Abdoulaye est également avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Rouen.
Que vous inspirent donc les événements de ces derniers jours à Dakar?
Bon, disons, moi, je suis animé d'un sentiment de désolation et de tristesse, parce que dans toute cette affaire, il y a un seul perdant, c'est le Sénégal. Bon, au début, je ne voulais pas me prononcer sur l'affaire, mais du moment que l'affaire a quitté le domaine privé pour basculer dans la politique, je pense que toute personne a le droit de prendre la parole pour donner son point de vue. Bon, ce qui m'intrigue, c'est le silence de Ousmane Sonko. Je peux comprendre qu'il ait développé une stratégie depuis le début pour faire une démonstration de force, mais actuellement, on ne parle plus de saccage, on ne parle plus de pillage, mais on parle actuellement de mort. Et donc, je pense que M. Ousmane Sonko devait faire preuve de hauteur et prendre la parole, ne serait-ce qu'une fois, pour appeler...
Mais il a pris la parole, Abdoulaye, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, il a pris la parole, il me semble qu'il a organisé une conférence de presse dès que cette plainte a été déposée, quelques jours après.
Oui, mais tout ça, ça entre dans sa stratégie. Parce que, bon, depuis le début de l'affaire, M. Sonko n'a pas parlé de l'affaire en soi qui est le viol. Mais il a...
Lui se dit innocent et victime d'un complot organisé. Il a même cité le chef de l'État en personne, le président Macky Sall.
Oui, mais en fait, c'était ça, sa stratégie depuis le début. Parce qu'une affaire qui est privée, Agissa, qui l'a accusé, a saisi la justice, mais il devait au moins accepter d'aller se défendre devant le tribunal.
Oui. Bah, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il allait faire mercredi, lorsqu'il a été interpellé sur le chemin du palais de justice.
Oui, mais ça, je pense que c'est un piège qui a été ourdi. Et contrairement à beaucoup de gens qui pensent que l'État du Sénégal, tu profites à ce que le dossier soit alourdi en y ajoutant des charges supplémentaires sur la personne Sonko, moi j'ai dit que c'est l'État du Sénégal lui-même, à travers le préfet de Dakar, qui, si je ne m'abuse, a poursuivi M. Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public. C'est l'État du Sénégal lui-même qui est tombé dans le piège de M. Ousmane Sonko. Mmh. Parce qu'enfin, politicien est tout de même inexpérimenté, mais entouré de bons conseillers. M. Sonko sait qu'il est plus honoré d'être jeté en prison pour trouble à l'ordre public plutôt que d'être condamné pour viol, ce qui oui. signifierait naturellement sa belle mort politique.
Oui, enfin, s'agissant de cette plainte pour viol portée contre lui, l'opposant doit comparaître en fin d'après-midi, aujourd'hui même. Hein. Donc, l'affaire pour viol est évidemment toujours d'actualité. Aujourd'hui, il y a un appel à manifester de nouveau dans les rues de Dakar qui a été lancé, manifestation interdite en raison de la situation sanitaire, mais ça n'empêchera pas Alain, visiblement, d'aller marcher dans les rues de la capitale sénégalaise. Bonjour Alain.
Bonjour Juan.
Vous avez bel et bien l'intention de marcher dans Dakar aujourd'hui.
Effectivement Juan, nous allons marcher aujourd'hui. Nous allons marcher parce que c'est une marche pacifique organisée par tous ceux qui sont les défenseurs de la liberté et de la démocratie. Juan, aujourd'hui ce qui se passe c'est inadmissible et il faut le dénoncer et il faut le dire parce que on est parti d'un viol imaginaire pour après accuser le président, ou en tout cas M. Ousmane Sonko, de trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée. C'est des accusations fallacieuses. Parce que tout le monde sait qu'il y a au début la thèse du viol. Et cette thèse-là ne peut pas prospérer ni marcher dans que personne aujourd'hui au Sénégal ne peut comprendre. Parce que même les enfants qui ne savent pas parler savent qu'il n'y a pas de viol. On ne peut pas aujourd'hui être
ça, écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, Alain. Je ne sais pas si vous avez eu accès à tous les procès-verbaux pour tenir de telles affirmations. C'est à la justice de savoir effectivement s'il y a eu viol ou pas. Présomption d'innocence, il faut effectivement la respecter et c'est primordial, c'est essentiel. Vous allez manifester, Alain, alors que la manifestation est interdite. Donc forcément, en allant manifester, Alain, vous savez bien que vous allez d'une certaine façon provoquer les forces de l'ordre. Puisqu'elle est interdite, la manifestation. Déplacez-vous, mettez-vous un peu vers l'extérieur parce qu'il y a de l'écho dans la pièce où vous êtes.
D'accord. Permettez-moi juste, Juan, de vous dire que aujourd'hui, les PV ne sont un secret pour personne. Les PV d'audition de la gendarmerie, presque tous les Sénégalais ont possession de ces PV-là. Moi, si vous parlez, j'ai possession de ces PV-là.
Oui, non, mais je sais bien.
Ce sont des PV qui innocentent carrément, je vous dis. Monsieur Ousmane Sonko.
Si vous avez eu, si vous avez eu accès au PV, à tous les PV et pas à des extraits, puisqu'effectivement la presse a publié des extraits, la presse sénégalaise. Maintenant, bon, voilà. Alain, vous savez quoi? On aura toutes les façons l'occasion de prolonger ce débat lundi matin, puisque ce sera l'objet de notre émission lundi. On verra comment se déroule cette journée, puisque Ousmane Sonko, normalement, sa garde à vue terminera cet après-midi. Il doit comparer être également cet après-midi dans le cadre de la plainte pour viol. Il y a cet appel à manifester dans les rues de Dakar, manifestation interdite en raison de la crise sanitaire. La journée s'annonce tendue, on va suivre tout cela de très très près évidemment, et on y reviendra évidemment lundi matin. Et d'ici là, vous nous appelez, vous nous envoyez vos témoignages d'ailleurs tout au long de la journée sur nos réseaux sociaux, 33 9 693 693 70, et la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Mathieu, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Porto Novo, vous êtes au Bénin.
Bien sûr.
Et vous revenez-vous sur l'arrestation au Bénin de l'opposante Rekia Madougou?
Oui Juan, je pense que le président Patrice Talon, à travers sa police politique et sa justice privée, dont les agissements n'étonnent plus les Béninois depuis l'historique affaire de 18 kg de cocaïne montée de toutes pièces contre Agavon, qui n'a plus le contrôle de la situation au Bénin. Sinon, avant-hier, moi j'ai assisté au meeting de l'opposition, pendant lequel l'armée et la police ont encerclé les lieux. C'est du jamais vu dans notre pays.
Mais
depuis l'organisation de l'historique conférence nationale en 1990,
bon, Mathieu,
où le Bénin a renoué avec
la démocratie. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de l'histoire contemporaine du Bénin, même si elle est passionnante, évidemment, Mathieu. Mais vous nous appelez pour réagir à l'arrestation de Rekia Madougou, et pour l'instant, vous parlez de tout sauf de cela.
Je pense que cette arrestation est une violation de la constitution béninoise et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples annexée à cette constitution qui garantissent la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'association.
Mais Mathieu, vous tournez autour du pot. Elle est accusée, visiblement, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, d'avoir financé des opérations destinées à saboter l'élection présidentielle.
La justice n'a pour le moment donné aucune preuve de ce sabotage. Quoi, non ? Le procureur spécial, si vous avez lu son acte d'accusation hier, est allé récupérer une publication d'un citoyen sur Facebook pour en faire l'acte d'accusation. Comment peut-on financer le terrorisme au Bénin au 21e siècle de cette façon ? Nous savons que le terrorisme existe dans beaucoup de pays en Afrique, au Niger, au Burkina, au Mali, mais ce n'est pas de cette façon que ça se passe. À moins que le Bénin ait inventé une nouvelle façon de terroriser.
Oui. Mais alors attendez, Mathieu, et on va conclure rapidement parce qu'il y a d'autres sujets, et là aussi on aura l'occasion de revenir hein, sur cette arrestation. Mais pourquoi aurait-elle donc été arrêtée ? Elle dérange à ce point-là le pouvoir ?
Bien sûr, alors que elle dérange le pouvoir.
Mathieu, laissez-moi terminer la question. Alors que sa candidature à la présidentielle a tout de même été recalée.
Bien sûr, elle dérange le pouvoir pour plusieurs raisons. Elle a fait une entrée fracassante, inattendue dans la vie politique béninoise pendant ce mois-ci. Et on a vu que son arrivée a fait changer les donnes parce que elle a tenté de déstabiliser le système mis en place par le président Patrice Talon à travers le parrainage. Par ailleurs, elle mène la lutte avec d'autres partis de l'opposition pour que, à partir du 5 avril 2021, le mandat du chef de l'État prenne fin conformément à sa prestation de serment le 6 avril 2016.
Mathieu, il faut conclure. Je suis désolé, je vous interromps. Ce n'est pas de la censure. Vous avez eu largement le temps de développer votre analyse. C'est promis, on y reviendra la semaine prochaine. Hein, mais il y a d'autres sujets. Et je voulais qu'on parle du Tchad. On en a beaucoup parlé hier, mais voilà un sujet qui a suscité beaucoup de réactions. On nous interpelle aussi sur le procès du général Sanogo, qui doit reprendre la semaine prochaine. Voilà un sujet aussi qui ne laisse pas indifférents les Maliens. Bonjour Oumar.
Bonjour Juan, comment vous allez ?
Bah écoutez, très très bien, ravi de débattre, discuter avec vous comme tous les jours en direct. Le général Sanogo, poursuivi pour l'assassinat en 2012 de 21 militaires qui ont été retrouvés dans un charnier près de Bamako après le coup d'État contre le président ATT. Et visiblement, tout indique que le général pourrait la semaine prochaine bénéficier de ce qu'on appelle la loi d'entente nationale, c'est-à-dire bénéficier d'une amnistie. Et là, ça vous dérange un peu ?
Extrêmement, pas qu'un peu seulement. Moi, je pense que c'est une porte ouverte à l'impunité, à la contradiction flagrante et à la violation de notre constitution, étant donné que un coup d'État, ça fait le quatrième aujourd'hui du genre au Mali, c'est un crime imprescriptible. Et pour moi, ça ouvre la porte à d'autres volontés.
Exactions.
Voilà.
Oui. Mais en même temps, à côté. Oumar, vous savez bien qu'il y a eu un accord, enfin, pas plus qu'un accord, il y a eu une loi qui a été votée il y a maintenant 2 ans, si ma mémoire est bonne, une loi qui vise à favoriser la paix, la réconciliation, et il est prévu que les auteurs de certains crimes lors de la crise malienne de 2012 puissent bénéficier soit d'une amnistie, soit d'une grâce.
Oui, bien entendu. Moi je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Un coup d'État, ça ne se fait pas comme ça. Derrière, regardez la vingtaine de bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier. Les parents ne savent même pas, pour certains d'entre eux, qui l'a fait, oui. Quelles sont les responsabilités. Est-ce que si la justice aujourd'hui ne condamne pas, au moins pour que les personnes qui ont été éprouvées, les personnes qui ont été touchées par ces actes-là, puissent avoir justice en leur pays. Où est-ce qu'on va? Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important de rendre justice, de dire que voilà, vous avez été condamné pour ça. Mmh. Au moins que les gens aient confiance en leur justice.
Oui, je précise, c'est important de rappeler que, puisque vous parlez des parents des militaires, lors de la dernière audience au tribunal il y a 10 jours, la principale association des victimes était absente, puisque une partie ou quasiment tous les parents des militaires qui ont été assassinés en 2012 ont été indemnisés. Ils ont reçu soit un peu d'argent, soit une maison en vertu justement de cette loi. Là aussi, c'est promis, on en reparlera la semaine prochaine, puisque ce procès est vraiment très très attendu. Oumar, je vous souhaite de passer tout de même une bonne journée à Bamako. On va terminer avec Titi Bonheur. Quel beau prénom. Bonjour Titi Bonheur.
Bonjour Juan de Meuse.
À Orléans, merci de nous écouter. Vous êtes en France, Congolais de Brazzaville, et vous souhaitiez prendre la parole ce matin à l'occasion du coup d'envoi aujourd'hui même de la campagne électorale dans votre pays d'origine.
Oui, exactement. Vous savez, l'élection présidentielle est toujours un moment décisif dans la vie d'une nation, donc un rendez-vous, comme on le dit, entre un peuple et un homme. Et moi, d'entre deux jeux, je voudrais en fait m'inscrire en faux avec l'appel d'une frange de l'opposition qui voudrait donc, par la politique de la chaise vide et par l'immobilisme civique, que les Congolais ne puissent pas se rendre aux urnes. Et donc, moi, je ne partage pas cet appel-là.
C'est-à-dire que vous ne comprenez pas que le chef de file de l'opposition décide de boycotter ce scrutin?
Bon, déjà, non seulement je ne comprends pas, mais je ne partage pas cela, parce qu'on est dans le combat politique, et j'estime qu'une nation se construit aussi par des actions de nature civique à travers donc le vote. C'est pourquoi, bien que je partage l'avis aussi de cette partie de la société civile, qui constate aujourd'hui, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il y a en amont des peccadilles probantes, sur l'organisation de ce scrutin.
Oui, parce que justement, Pascal Tsati Mabiala ne veut pas participer au scrutin présidentiel puisqu'il affirme qu'il y a des lacunes dans l'organisation des élections. Donc on participe à un scrutin présidentiel sachant effectivement qu'il y a des lacunes, alors.
Écoute, moi je parle du principe qu'aucune élection présidentielle n'est parfaite. On l'a vu tout récemment avec l'une des plus vieilles démocraties du monde. Donc j'estime en fait que pour porter notre démocratie perfectible aujourd'hui sur les fonds baptismaux de démocratie multiséculaire, il faut que les Congolais donc prennent leur part de destin en participant en fait au libre choix de celui qui sera le porte-étendard de la nation congolaise.
Alors Titi Bonheur, vous avez évoqué plusieurs points au standard, donc cette décision de boycotter par le principal parti de l'opposition, et également vous disiez je suis inquiet car les militaires vont pouvoir voter par anticipation.
Exactement. Donc c'est cela en fait, bien que j'appelle vivement les Congolaises et les Congolais à se rendre massivement aux urnes le 21 mars prochain, j'ai quand même trois inquiétudes. Donc la première, c'est lié au vote par anticipation de nos vaillantes forces de l'ordre. Ça soulève en fait donc un doute légitime sur leur double casquette de militaires et aussi de votants civils.
C'est-à-dire que vous craignez qu'ils votent par anticipation en tant que militaire et que le jour du scrutin, ils retournent aux urnes voter en tant que civil.
Oui, c'est une possibilité et il faut que le gouvernement, que la Commission nationale électorale indépendante puisse être transparente sur cette question de façon à ce que nous ayons une liste claire et nette des militaires qui voteront. Mais sinon, il y a d'autres inquiétudes aussi.
Alors, une dernière et on rend l'antenne.
Alors, la deuxième inquiétude, c'est celle qui est connue de tous, c'est le fait que la double casquette du président de la Commission nationale électorale indépendante, qui en plus d'être président de cette cour, est président de la Cour suprême. Mais s'il y avait une proposition à faire, c'était vraiment que pour les prochaines élections à venir, que la diaspora congolaise puisse aussi à l'avenir participer.
Évidemment,
et être
voter.
Exactement, dans les différents processus électoraux.
Je vous interromps et on aura l'occasion...